Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine Nouvelle Génération. C'est le temps des projets, des possibles, des découvertes en tout genre, des rencontres, des apprentissages. Pour la jeunesse depuis un an et demi, c'est surtout le temps du Covid qui enferme, appauvrit, bouche les horizons et bonjour la déprime.
J'envie les personnes qui partent à la retraite ou qui ont déjà un emploi bien stable parce que nous, on ne sait pas.
Génération Covid, on s'est beaucoup posé la question depuis le début de la crise sanitaire. A-t-on sacrifié la jeunesse pour sauver les plus âgés? Une première réponse avec un ouvrage publié aujourd'hui, Génération sacrifiée, avec un point d'interrogation. La chercheuse Patricia Loncle est là ce soir pour nous en parler. Il partage les interrogations de son époque dans la vie et dans ses chansons. À 31 ans, il est l'un des espoirs francophones les plus passionnants du moment. La presse l'a surnommé l'Helvète Underground, son nom d'artiste. C'est Muddy Monk en hommage à Muddy Waters.
We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him.
France Inter. Oh, yeah. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
Le souffle de la jeunesse est ce soir sur France Inter. Ce que les Français veulent, le nouveau single de Gatien, sorti le mois dernier en partenariat avec France Inter. Et les jeunes Français, que veulent-ils et comment vont-ils un an et demi après le début d'une crise sanitaire dont on a beaucoup dit qu'elle avait eu pour conséquence de sacrifier la jeunesse? La réponse à cette question se trouve dans un ouvrage collectif publié aujourd'hui aux presses universitaires de France, coordonné par Tom Chevalier, chercheur au CNRS, et Patricia Loncle, professeur des universités à l'École des hautes études en santé publique. Bonsoir Patricia Loncle.
Bonsoir.
La rentrée scolaire et universitaire se profile. Le gouvernement mise sur la vaccination vaccination des plus de 12 ans pour qu'elle puisse se dérouler le plus normalement possible. Chez les 18-29 ans, 64% sont vaccinés totalement, 80% ont reçu la première dose. Les étudiants devraient pouvoir retrouver le chemin de l'université à peu près normalement, sauf aux Antilles, hein, on l'entendait dans le journal, fortement touché par la quatrième vague, où la rentrée là va se faire à distance. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes autour de cette rentrée.
Absolument, on espère vraiment qu'elle va se faire dans des conditions les plus normales possibles, parce que ça a été vraiment des périodes très très dures, là, les deux dernières années universitaires, donc on va voir.
Dans cet ouvrage, Patricia Loncle, Une jeunesse sacrifiée, avec un point d'interrogation, vous passez en revue tous les aspects de la vie de cette jeunesse, économique, sociale, scolaire, psychologique. Globalement, tous les indicateurs se sont dégradés. Qu'est-ce qui vous semble le plus inquiétant aujourd'hui ?
Alors, il y a des choses effectivement assez inquiétantes autour de ce qu'on montre hein, sur le creusement des inégalités sociales dues à la crise du Covid, mais qui n'est peut-être pas complètement spécifique à cette crise-là. On voit qu'à chaque crise, hein, la question du creusement des inégalités touchant les jeunes tend à réapparaître. Donc ça, c'est une chose, mais c'est pas nécessairement très spécifique au Covid. Ce qui est plus spécifique et peut-être qui doit plus nous mettre en alerte, ce sont les questions éducatives, hein, qui, effectivement, comme vous avez commencé votre émission avec ça, hein, qui pose vraiment des questions, puisque on a vu qu'il y avait quand même un certain nombre d'écueils liés à la formation à distance, même si c'était mieux que rien d'avoir une sorte de continuité pédagogique. Mais tout de même, hein, on a vu que ça mettait les étudiants en risque de décrochage, en risque d'apprendre mais que partiellement les contenus qui leur sont délivrés. Donc ça, c'est une première chose. Et dans ce cadre-là, on a pu observer là encore, un renforcement des inégalités vis-à-vis des familles d'origine, hein, puisqu'on a vu des étudiants connaître beaucoup de contraintes matérielles, devoir retourner chez leurs parents, avoir des appuis très très différenciés de leurs parents, de leur réseau, devoir quitter leur petit job d'été ou pendant l'année. Enfin, tout ça, ça pose des questions qui, là, sont beaucoup plus spécifiques à cette crise-là. Et puis, l'autre enjeu, c'est l'enjeu de la santé, et notamment de la santé mentale hein, des jeunes. Alors, pas seulement des étudiants, mais des jeunes en général, hein, dont on a pu voir qu'ils étaient très dépendants de leurs parents, qu'ils avaient dû mettre fin à de nombreux projets qu'ils pouvaient avoir, des projets d'emploi, de mariage, de stage, enfin de diverses formes. Et puis, dans les sondages qui ont pu être faits auprès des jeunes, un niveau de bonheur déclaré en baisse, des jeunes qui ont été pointés du doigt, surtout au début de l'épidémie, comme étant les propagateurs du virus, des situations d'isolement hein, assez forte, à la fois par rapport à l'enseignement, mais aussi d'une manière générale par rapport au lieu de socialisation des jeunes qui étaient fermés, hein, les bars, les boîtes de nuit, etc. Et puis, des déclarations de montée de stress, d'angoisse, d'idées suicidaires, etc. Et donc ça, c'est plus spécifique à cette crise-là.
On savait déjà, vous l'expliquez dans le livre, depuis les années 70, qu'en période de crise, la jeunesse était toujours touchée en premier, en particulier les jeunes les moins qualifiés. Ce qui est nouveau avec cette crise, c'est qu'elle touche aussi les étudiants, et on se souvient de ces images d'étudiants qui faisaient la queue devant les banques alimentaires. C'était l'hiver dernier. Écoutez l'une de ces jeunes filles.
J'ai 22 ans, il n'y a pas longtemps. Là, je suis dans ma deuxième année de droit. Je fais un petit travail les matins. Je me lève tous les jours à 5 heures. Je fais un peu de ménage, agent d'entretien. Je n'ai pas la bourse, ça veut dire que je n'ai pas vraiment de source de revenus à part ceux que mes parents m'envoient. Donc le premier travail qu'on me donne, je le prends. C'est peut-être pas un travail que j'aurais fait en temps normal. À un moment, faut être indépendant, à un moment, faut se débrouiller tout seul.
Patricia Loncle, on sait déjà qu'en temps normal, hors Covid, les jeunes sont la catégorie la plus touchée par la pauvreté et le chômage. Et la crise n'a fait qu'accentuer ces inégalités, à la fois entre les générations, mais aussi au sein de la jeunesse. Puisqu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses.
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, hein, c'est les chapitres de mes collègues au début du livre, hein, qu'il s'agisse de Camille Penny ou de Nicolas Charles, rappellent bien ça. En fait, ce livre, il n'est pas consacré à la crise du Covid, hein, puisqu'on a commencé à l'écrire avant la crise, et donc on y arrive seulement dans la post-face. Mais effectivement, les collègues mettent beaucoup l'accent, hein, sur ces différentes inégalités et rappellent que tous les jeunes ne sont pas logés à la même enseigne. Nicolas Charles rappelle que la jeunesse, c'est seulement une moitié d'étudiants, hein, l'autre moitié travaille ou est sans emploi ou voilà, fait d'autres expériences. Et au sein des étudiants, on voit bien qu'il y a des inégalités très fortes. Alors, à la fois en termes d'accès ou pas à l'enseignement supérieur, en termes d'accès à tel ou tel établissement, on sait que les établissements sont plus ou moins prestigieux et garantissent plus ou moins un accès aisé au travail. Et puis, en termes de filières également, hein, pour les mêmes raisons. Hein, certaines filières sont plus prestigieuses que d'autres et vont permettre plus de réussite. Et tout ça, c'est très lié à la classe sociale d'appartenance des jeunes, puisque on sait qu'en France, il y a des inégalités sociales et scolaires qui sont quand même très très importantes.
Et la question se pose autour de la persistance des situations les plus difficiles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de décrochage irréversible de toute une partie de la jeunesse qui est la plus défavorisée ?
Alors, irréversible, c'est peut-être difficile de le dire comme ça, mais oui, il y a des risques de décrochage, en particulier chez les étudiants qui étaient en début de cursus, les premières années, qui n'avaient pas forcément l'habitude du travail universitaire. Donc ça a été quelque chose qui a été souligné. Et puis aussi, effectivement, les étudiants qui n'ont pas les conditions matérielles nécessaires pour étudier convenablement, qui n'ont pas une chambre pour eux tout seuls, ou qui n'ont pas un ordinateur pour eux tout seuls, ou une bonne connexion Internet. Donc, tous ces facteurs-là ont effectivement renforcé le risque de décrochage, de même que le fait de ne pas pouvoir conserver son travail en parallèle. Parce que là, un certain nombre d'étudiants ont dû stopper leurs études pour gagner leur vie d'une autre manière.
Et est-ce qu'on sait si ces étudiants qui ont dû lâcher leur petit boulot ont pu récupérer un peu des revenus cet été à la faveur du déconfinement, de la reprise partielle de l'activité touristique ?
Apparemment, la situation c'est un peu arrangée, hein, pour les jeunes en général, hein, y compris les plus vulnérables comme les jeunes migrants par exemple, hein, qui ont l'air d'avoir retrouvé un peu de souffle, hein, depuis l'été, effectivement, autour de ces petits boulots, quoi.
On va écouter un autre témoignage d'une étudiante qui s'exprimait sur France Info en mars 2021.
Moi, j'ai l'impression que c'est une année où j'ai vécu pour rien, ou comme si j'avais vécu moins intensément qu'avant, comme un peu une année zéro, une année qui a servi à rien. Mais si je réfléchis un peu, c'est pas vrai, dans le sens où j'ai affronté pas mal d'épreuves cette année, comme beaucoup d'étudiants, et je pense que c'est aussi une année où on a appris des choses, où on ressort d'une certaine manière un peu plus fort. Où on a appris des choses sur nous-mêmes, on a appris à se connaître, on a appris qu'on réagissait pas toujours bien à certaines situations, etc. Donc non, c'est jamais une année zéro, on apprend toujours des choses, mais c'est vrai que c'est pas l'année qu'on avait espéré, quoi.
Il y a de l'espoir aussi dans ce témoignage, Patricia.
Absolument, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et c'était la perspective qu'on voulait avoir pour cet ouvrage, de dire n'ayons pas seulement une vision misérabiliste des choses. C'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation. Et qu'on essaye de montrer dans le livre qu'il y a également des initiatives qui viennent de la part des jeunes, qui sont très positives, qui ont eu lieu dans les territoires, qui ont eu lieu dans les associations, etc., créées parfois directement par les jeunes. Et les jeunes ont participé vraiment à la lutte contre cette crise. Ils se sont positionnés très clairement dans des gestes solidaires, si vous voulez, dans cette période-là. Donc effectivement, c'est pas seulement négatif.
Oui, il y a des bémols à ce concept de génération sacrifiée. Vous rappelez, malgré ce qu'on entend parfois, que le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé dans notre pays, que cette nouvelle génération est aussi plus tolérante, plus ouverte aux questions sociétales que leurs aînés, et bien que s'ils sont moins engagés dans la sphère électorale, ils ont aussi d'autres formes d'engagement dans la société.
Tout à fait. Alors c'est l'objet du chapitre qui a été écrit par Sarah Picard et Sylvain Develde, qui reviennent sur trois portraits de jeunes. Alors de jeunes en colère, certes, mais pour lesquels la politique veut dire encore beaucoup de choses. Mmh. Alors d'une autre manière, ils redéfinissent un peu les choses. Et donc ces trois portraits là qu'elle dresse sont très intéressants parce que ils mettent en évidence à la fois le fait que les jeunes peuvent être parfois dans une tentation de rejet anti-système, mais aussi qu'ils intègrent la politique au quotidien dans les gestes de leur vie les plus micro, hein, disons. Hein. Et pour eux, une des personnes qui est interrogée dit « la politique est dans nos vies ». Et donc ça permet de revenir sur l'idée que les jeunes seraient apathiques ou seraient désintéressés vis-à-vis des enjeux politiques du monde. Hein. Et là, elle montre tout à fait autre chose. Et dans le dernier chapitre qu'on a écrit avec Tom Chevalier, c'est un petit peu la même idée. Hein. On met en évidence une coopérative qui a été montée par des jeunes, qui s'appelle Copesquem, et qui est basée sur la volonté de ces jeunes qui sont engagés d'agir dans leur territoire, d'interpeller les pouvoirs publics, de changer le cours, finalement, de l'action publique en luttant contre les inégalités sociales. Donc, effectivement, on a aussi des jeunes extrêmement actifs et positifs, si vous voulez.
Il y a la question aussi de l'accès aux droits sociaux. Souvent, par manque d'informations, les jeunes ne sollicitent pas des aides auxquelles ils ont droit, pourtant, et surtout, eh bien, ils n'ont pas accès à certaines aides publiques. Évidemment, on le sait bien, comme le RSA, qui n'est accessible qu'à partir de 25 ans dans notre pays. Emmanuel Macron doit présenter à la fin du mois de septembre un revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ou sans formation. Ça tournerait autour de 500 euros par mois environ pour des jeunes qui s'engageraient à suivre un parcours d'insertion. Ça vous paraît être une bonne mesure ?
C'est intéressant. Après, il va falloir voir un petit peu quelles sont les spécificités de ce dispositif. Alors, c'est vrai que dans l'ouvrage, il y a un chapitre hein, qui a été écrit par Léa Lima et Benjamin Vial sur les questions de non-recours des jeunes à l'aide publique, où ils reviennent longuement sur les raisons pour lesquelles les jeunes ne recourent pas nécessairement aux aides qui leur sont proposées. Donc, le revenu d'engagement, pour ce qu'on en sait pour l'instant, effectivement, c'est un dispositif qui semble assez intéressant. Après, il va falloir voir comment il est mis en œuvre, parce que pour l'instant ça reste encore assez vague hein. On parle d'un revenu pour tous les jeunes en ayant besoin, donc quels vont être les critères d'accès, pour l'instant c'est pas très bien. Et puis on parle aussi d'un contrat d'engagement avec un engagement réel des jeunes. Alors voilà, on peut se demander un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Moi je me dis peut-être que ça repose encore sur une conception assez négative des jeunes, cet engagement réel. Est-ce qu'on se permettrait de dire ça pour des adultes, vous voyez? Voilà, c'est des questions. Bon, après, on va voir comment... On n'a que quelques annonces, on n'a pas les détails, le comité scientifique de suivi est en train de se mettre en place, on va voir ce que ça va donner.
On verra ça fin septembre, normalement. Merci beaucoup, Patricia Loncle, co-autrice donc d'une jeunesse sacrifiée, point d'interrogation, avec Tom Chevalier aux Presses universitaires de France, qui est sorti aujourd'hui.
I'm sweet, I'm chasing my dreams, you're Aggie with me, cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew, we're black and we're British and African too, but so far removed, I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and 100 grand and a pink. And we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Bye.
buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Fuji, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I
la rappeuse britannique Annie qui vient de dévoiler son premier EP Under 25 en partenariat avec France Inter, une bouffée d'air frais et d'optimisme qui fait du bien.
Un monde nouveau. Sonia Khirouni sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Armel Auger du magazine Oui Demain. Bonjour Armel.
Bonjour Sonia.
Et Aurélie Djavadi, chef de rubrique éducation à The Conversation France. Bonjour à vous Aurélie.
Bonjour Sonia.
C'est bientôt la rentrée et on va commencer avec vous Armel Auger par les plus grands, ceux qui vont retrouver ces jours-ci le chemin du bureau et les collègues ou pas. Car d'après le sociologue Jean Viard, 15% des Français auraient décidé de changer de vie, privée mais aussi et surtout professionnelle. 40% des jeunes cadre envisagerait ainsi une reconversion porteuse de sens et d'éthique avec ce qu'on appelle, Armel, des jobs à impact.
Oui, on va beaucoup en entendre parler de ces jobs à impact. Alors, si pour les millennials et leurs cadets de la génération Y et Z, hein, ce sont les 18-35 ans, il est important de ne pas perdre sa vie à la gagner et donc de trouver un job qui leur donne d'abord la possibilité de mener la vie dont ils ont envie, il est en effet de plus en plus primordial que le travail en question, c'est quand même 80 000 heures d'une vie et du sens. Alors, surtout pas de bullshit job, ce boulot répétitif dont on a du mal à saisir la finalité, responsable des burn-out et autres souffrances dénoncées par l'anthropologue David Graeber. Alors, une traque du sens qui s'accompagne depuis peu d'une autre revendication beaucoup moins individualiste, celle de l'utilité du dit travail à la société, à la planète, et c'est ce qu'on appelle un job à impact. Alors, les DRH avaient déjà intégré depuis quelques années cette aspiration au sens des jeunes diplômés, tout particulièrement des ingénieurs d'ailleurs. Alors, pour ces jeunes actifs, les valeurs sociales et environnementales d'une entreprise priment en effet désormais souvent sur la rémunération. Lors d'un recrutement, ils questionnent les managers sur leurs engagements concrets et veulent vraiment des réponses précises, jusqu'à inverser parfois le rapport de force entre recruteurs et recrutés. Alors il faut savoir que pour 60% des jeunes, et là on passe sur les 15-35 ans, une grande entreprise doit s'engager pour l'environnement.
Et alors comment on fait pour avoir un job à impact ?
Alors, on change son boulot de l'intérieur, on change l'entreprise ou carrément de métier, ou on crée son entreprise. Alors, pas évident, direz-vous. C'est plus faisable qu'on ne le pense. Dans son manifeste pour les carrières à impact, c'est un livre qui sera publié début octobre aux éditions Le Duc, Mathieu Dardaillon, président et cofondateur de l'association Ticket for Change, une structure d'accompagnement au changement, donne pas mal de pistes. Alors, pour faire évoluer son boulot de l'intérieur, il ne faut pas attendre que le changement vienne d'en haut. Changer de métier est devenu une tendance forte. Alors, les demandes de reconversion, tous âges et profils mêlés, se sont en effet multipliées depuis un an. La reconversion de nombre de cadres et de professions dites intellectuelles dans des métiers manuels, comme la boulange ou l'ébéniste pénurie est un phénomène en pleine évolution. Enfin, on peut créer son emploi en devenant entrepreneur social. Là aussi, la démarche bénéficie d'un soutien beaucoup plus structuré, avec des mouvements d'entrepreneurs sociaux, des ONG spécialisées, des incubateurs qui accompagnent étape par étape les porteurs de projets, des formations distancielles et, c'est toujours le nerf de la guerre, des structures de financement spécialisées. De quoi nous permettre, à presque tous, d'avoir ou de transformer notre job en job à impact.
Merci beaucoup Armelle Auger, un sujet qui est à retrouver dans le dernier numéro de la revue Oui Demain qui vient de paraître. Aurélie Djavadi, c'est à vous, vous êtes chef de rubrique éducation à The Conversation France et avec vous on va s'intéresser maintenant à la rentrée des plus jeunes.
Oui, les écoles vont bientôt ouvrir leurs portes et si jamais ça vous avait échappé, Sonia, il y a déjà une multitude d'indices pour vous le rappeler. Alors les cahiers, les crayons, les trousses envahissent déjà les rayons des supermarchés.
Mais en 2021, est-ce qu'on a encore besoin de mettre des stylos et des classeurs dans les cartables des élèves ?
Alors en effet, la question du passage au numérique, c'est un leitmotiv de l'éducation nationale. Et depuis quelques années déjà, on se souvient des plans tablettes pour équiper les collégiens. Et la crise sanitaire a marqué une rupture, puisque, souvenez-vous, pour le premier confinement, ce sont les ordinateurs et les smartphones qui ont fait le lien entre l'école et les familles.
Et oui.
Alors pour autant, le papier n'a pas dit son dernier mot. Rappelez-vous de ce débat aux États-Unis dans les années 2010. Alors à ce moment-là, l'écriture manuscrite avait disparu du socle d'apprentissage obligatoire dans un certain nombre d'États.
Mmh.
En fait, beaucoup d'écoles ont fini par faire machine arrière, tout simplement parce que l'écriture manuscrite est un outil pour apprendre à lire. Les chercheurs ont montré que les élèves reconnaissent plus facilement les lettres quand ils apprennent à les tracer à la main. Alors si vous prenez un clavier, toutes les touches se ressemblent. Si vous devez écrire un A, un E, un T, en fait vous allez vous contenter de pointer une touche. Sur du papier, il va falloir suivre les pleins et les déliés de chaque lettre. La boucle du L n'a rien à voir avec la boucle du E ni la rondeur du A. Chaque geste est différent et cette complexité, en fait, c'est ce qui favorise la mémorisation.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui écrire avec des stylets sur des tablettes ?
Alors si, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que les tablettes actuelles, elles sont trop lisses. Et ça, ça perturbe le pilotage du geste. C'est ce que les chercheurs Denis Alamargaud et Marie-France Morin ont montré dans leur expérimentation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté ces outils en attendant que les ingénieurs les perfectionnent pour créer un degré de friction plus fort entre la main et l'écran. Le papier, aujourd'hui, reste essentiel dans les petites classes, mais on peut d'ores et déjà exploiter l'interactivité du numérique pour inventer de nouveaux exercices, en grossissant les caractères, pour entendre la prononciation d'un mot, s'enregistrer, et tout ce genre d'exercice va enrichir l'expérience des élèves. Alors, pour les chercheurs, ce qui compte en fait, c'est de composer avec les atouts de chaque support.
Mais est-ce qu'en grandissant, les élèves ne vont pas forcément glisser vers ce tout numérique ?
Alors, c'est ça qui est surprenant. Ce n'est pas parce que les jeunes ont l'habitude de vivre avec des smartphones qu'ils négligent le papier. À l'université, figurez-vous qu'en majorité, ils préfèrent utiliser encore des manuels classiques, tels qu'on les connaît, en papier. Ils disent que ça les aide à se concentrer. Et les études montrent que la compréhension et la mémorisation d'un texte sont meilleures sur papier que sur écran. Alors, pourquoi, en fait, on en revient à la question de la matérialité des supports. Sur une tablette, vous allez faire défiler un texte. Dans un livre, ça va être stable. Vous allez pouvoir associer chaque phrase à un contexte sensoriel. Donc, c'est ce qu'explique le neuropsychologue Frédéric Bernard quand il dit que la forme, la couverture du livre, le nombre et l'épaisseur des pages aident notre cerveau à intégrer les informations qui lui parviennent et à mieux les retenir dans la durée. Bref, si notre esprit navigue de plus en plus dans le cyberespace aujourd'hui, nous restons des êtres bien incarnés.
Je suis rassurée, même si on change tout dans nos vies d'adultes, les livres, les grands cahiers, les petits cahiers ont encore de beaux jours devant eux dans le monde nouveau. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup Armelle Auger du magazine Oui Demain et Aurélie Djavadi du site The Conversation France. À la
la tablette et au stylo. Il préfère, lui, la machine à écrire parce qu'il aime travailler avec de beaux objets qui s'inscrivent dans le temps et vont tenir dans la durée. Auteur, compositeur et interprète parmi les plus talentueux de sa génération, Guillaume Dietrich, alias Muddy Monk, est à la fois un jeune artiste de son époque qui bidouille des machines dans son home studio et ne craint pas de parler de ses émotions et aussi un peu d'ailleurs, de Suisse déjà, où il est né et où il habite toujours, et d'une planète où règne une sorte de désespoir absolu, teinté de nostalgie et de quelques lueurs d'espoir. Bonsoir, Muddy Monk.
Bonsoir.
On parlait de la situation difficile de la jeunesse d'aujourd'hui dans la première partie de l'émission avec Patricia Longue. Vous avez 31 ans. À quoi elle a ressemblé à la vôtre de jeunesse ?
Elle était un peu technique au niveau de l'orientation professionnelle et des études. Mais sinon, ça allait.
Et quel regard vous portez sur cette jeunesse d'aujourd'hui, génération Covid ?
Bah, je pense que ça doit être encore plus compliqué. Et ouais, je pense qu'il doit avoir beaucoup de courage pour affronter leur jeunesse avec le climat actuel du Covid.
Après un premier album, Long Ride, en 2018, et avant la sortie du prochain, très attendu en 2022, vous revenez cet été avec deux titres, Muddy Monk, Athènes et Petit Soldat, de la pop synthétique, douce et romantique, comme dans une bulle hors du temps. On écoute Athènes.
Il y a papa dans la ville. Elle dit comme ça qu'il y a des inconnus qui s'aiment. Et moi vraiment, j'espère pas qu'elle traîne.
Muddy Monk est notre invité ce soir dans un monde nouveau sur France Inter. Dans ce titre, Athènes, Muddy Monk, vous vous adressez à votre père, votre papa, pour parler d'amour. C'est toujours le thème qui vous inspire le plus ?
Exactement, ouais. Je me vois pas trop parler d'autre chose pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais je pense que c'est une des plus belles thématiques à aborder en chanson.
Et pourquoi vous avez voulu vous adresser à votre papa ?
Comment c'était venu ça ? Bah, je pense que c'est limite la mélodie de la musique qui se prêtait à ce genre de mots. Et après, j'ai eu l'idée qui est venue de par des sonorités de mots. Et ça m'a donné l'idée d'écrire ça. Et dès que j'ai eu l'idée, je trouvais ça très fort. Au niveau émotionnel, ça me semblait assez bouleversant.
Il était chanteur aussi ?
Non. Enfin, il chante, mais... en rebis.
À la maison, à la maison. Vous chantiez avec lui à la maison?
En chorale, ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment de représenter Muddy Monk? Alors, vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Est-ce que vous avez le sentiment de représenter une nouvelle génération d'hommes qui communiquent plus facilement sur ses émotions?
Bah, j'espère, ouais. J'espère que... Enfin, représenter, c'est un grand mot, mais en tout cas, je pense que l'époque où les hommes ne pouvaient pas parler de leurs émotions, elle est un peu révolue.
Vous croyez?
Je pense pas dans tous les milieux, mais je pense qu'il y en a de plus en plus et j'espère que ça devient un peu une sorte de... Comment dire? Enfin, que c'est bien d'avoir cette force-là et que ce soit reconnu comme une force plus que comme un handicap.
Une norme?
Une norme, ce serait bien, ouais. Mmh. Je sais qu'on n'y est pas, mais...
Et vous avez toujours été comme ça?
Oui, moi, ouais. Je viens d'une famille très... Enfin, où on a toujours beaucoup discuté, on a beaucoup parlé de nos émotions. Du coup, je pense que ça vient d'une sphère familiale aussi.
Avec Athènes, mais aussi avec Petit Soldat, l'autre titre que vous avez dévoilé cet été, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus doux. On va écouter un extrait donc de la deuxième chanson, Petit Soldat.
Un peu bancal, mais je t'aime bien. Fragile et fin, c'est ça les princes. T'aimerais la paix, mais après tu t'ennuies. La poche des autres et puis les extrêmes. Vas-y, fonce, soldat, y'a du bon à se battre. Quand tout tombe, soldat, y'a des murs qui partent.
Petit soldat, deuxième titre dévoilé cet été par Muddy Monk, qui est notre invité ce soir sur France Inter, dans un monde nouveau. Fragile et fort, t'aimerais la paix, mais après tu t'ennuies, l'apogée des autres et puis les extrêmes, vas-y fonce soldat. Là vous vous adressez à qui, Muddy Monk?
À moi-même, pour ce coup. C'était une chanson web où je m'adressais à moi-même, et je m'imaginais petit et me donner des sortes de conseils pour avoir du courage, pour avancer, et qu'à travers ça, ça s'adresse aussi à tout un chacun.
Et à tous les jeunes dont on parlait
tout à l'heure. Et à tous les jeunes, justement.
Alors, j'ai dit que vous changiez de registre avec ces deux chansons qu'on vient d'écouter, qui sont plutôt douces, planantes, parce qu'avant, il y avait eu ça.
Du temps qui passe sans abîmer un peu les plumes de notre enfance.
Millennium, ça c'était un extrait du premier album, Long Ride.
Non, c'était sur une tape que j'ai fait de 4 morceaux après Long Ride. Et ouais, c'est un format assez extrême. Enfin, je voulais que ce soit plus radical, plus agressif. Ça reste doux, on est d'accord, mais...
Mais c'est plus radical que Petit Soldat.
Oui,
et,
beaucoup plus.
Et Athènes. Et là, vous avez eu envie de revenir à plus de douceur?
Pour ces deux morceaux, ouais. Ouais, je voulais... En fait, j'avais ces deux ballades que j'avais écrites dans l'année et qui rejoignaient pas mon album à venir dans la direction globale. Et du coup, j'étais motivé à sortir aussi des titres un peu pour pas pas avoir des trop longues périodes sans sortir de morceaux, pour, aussi pour me stimuler moi. Et du coup, elles sont sorties juste les deux ensemble, comme ça.
Et puis, il y avait eu aussi ça.
Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. C'est compliqué. J'aimerais m'inviter, mais je n'ai pas pris de clé. Je t'ai fait de la peine, donc t'as pas insisté. Ça fait des mois, entre les mois. Ouais, je le connaissais, le code était compliqué. Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. À 36B, c'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. Un pied dans l'œuvre, l'autre pied dans le hall. J'essaie de me rappeler de mettre les chiffres dans l'ordre. Un pied dans l'œuvre, l'autre pied dans le hall. J'essaie de m'en rappeler de mettre les chiffres dans l'ordre.
Mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour. Oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour.
Y'a ceux qui sont lèches, ceux qui sont lourds. Peut-on se toucher jusqu'à en devenir sourd? Y'a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Y'a ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont sourds. Tu veux mon code, tu veux ma clé. Tu veux mon password, tu veux mon dé. Hey, cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Cœur de pierre, j'ai perdu Louis.
Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment.
Le code, la chanson qui vous a fait connaître, Muddy Monk, c'était en 2017 en featuring avec les rappeurs Miss Sizer, Ichon et la chanteuse Bonnie Banane. Vous avez commencé dans le hip-hop ?
Moi, j'ai commencé à produire des instrumentales, ouais. De base, c'est comme ça que je suis arrivé vers la production en home studio. Et après, avec Sizer, c'était pas du tout lié. Enfin, j'avais aucun lien hip-hop avec eux. Ça s'est juste fait. Enfin, on était en contact et il m'a proposé cette collaboration. Et on a fait ce morceau tous ensemble.
C'est des registres très différents qu'on vient d'entendre. Le prochain album, il sera plus proche de quoi ? D'Athènes, de Millennium ou du Code ?
Plus proche de Millennium.
Plus proche de Millennium ?
Ouais.
Et il est toujours attendu pour courant 2022 ?
Ouais, le début 2022.
À 31 ans, Muddy Monk, vous avez déjà eu plusieurs vies. Vous avez été assistant social, job que vous avez quitté pour vous consacrer à la musique. Non mais c'est vrai, pourquoi vous riez ?
Ouais, c'était pas assistant social, c'était animateur avec des enfants et des jeunes.
Ah, animateur avec des enfants, oui c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Et j'ai lu que vous aviez aussi travaillé dans une boulangerie, c'est vrai ça aussi ?
Actuellement je travaille dans une boulangerie.
Vous travaillez toujours dans une boulangerie ?
Oui, exactement. C'est la boulangerie de mon cousin et d'un ami à moi, qui font une production de pain au levain à Fribourg où je suis. J'ai pu les rejoindre quand je suis rentré de Bruxelles pour travailler avec eux.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ça m'apporte une activité très terre-à-terre qui complète bien mon activité créative. Et de l'argent aussi, parce qu'en Suisse, il faut de l'argent.
Bien sûr. Mais le côté activité manuelle, ça complète votre activité artistique ?
Clairement, ouais, j'ai toujours bien aimé avoir faire que de la musique, je pourrais pas.
Pourquoi ?
Du coup, c'est toujours bien, parce que ça remplirait pas assez ma vie. Et
que ça remplit trop la tête aussi ?
Et ça remplit trop la tête aussi, clairement.
Vous avez d'autres passions ? La photo et la moto aussi ?
Je pense que ma passion serait plus la cuisine.
Ah, d'accord, ok.
La moto, c'est plus
on remonte la cuisine en numéro 1.
Et la moto, c'est plus mon moyen de déplacement de tous les jours. Et la photo, ouais, j'aime bien faire un peu. Mais est-ce qu'on en a une passion ?
Pas jusque là.
Peut-être pas tout à fait.
Vous êtes un artiste assez singulier, Muddy Monk. La plupart des artistes disent depuis des semaines ou des mois avoir hâte de retrouver la scène. Vous non. Vous dites, ça m'angoisse, et vous dites même, monter sur scène pour reproduire des morceaux que j'ai déjà créés, ça m'intéresse pas trop.
Exactement. J'ai rien d'autre à ajouter.
C'est hyper franc. C'est vrai ?
Ouais. clairement.
Vous n'aimez pas la scène ?
Je suis pas fan de la scène, non.
Mais pourquoi ?
Bah parce que vraiment, moi j'aime la création, j'aime faire des nouveaux morceaux, j'aime cette sensation au studio, cette euphorie d'avoir des nouvelles choses qui naissent. Et vraiment reproduire des morceaux sur scène, c'est pas un truc qui me fait vibrer plus que ça. Après, j'ai vécu des belles émotions en allant faire des concerts, bah, à la maroquinerie par exemple, des choses comme ça où il y a un échange qui est vraiment fort, mais ma passion c'est le studio quand même.
Le contact avec le public, quand même ?
Oui, oui. J'aime bien.
J'aime bien. Alors, on va s'intéresser un peu à vos influences maintenant en matière de musique, là encore. Vos goûts et vos inspirations sont très diverses. Il y a beaucoup de chansons françaises, et notamment un chanteur français très connu.
C'est écrit. Sors plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour, elle danse derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures. Personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route.
J'étais en train de chercher l'année de cet écrit, 1989. Je me demande, c'est pas votre année de naissance, ça, Madimanche ?
Moi, je suis
90. Ouais, vous êtes né un an plus tard. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson ?
Ben, c'était une chanson que j'écoutais quand j'étais petit déjà. Et au niveau émotion, ça m'a toujours amené des émotions très fortes. Et même encore aujourd'hui, je l'écoute avec la même émotion.
Avec la même émotion. Vous aimez aussi les chants traditionnels du pays de Fribourg, où vous êtes né et où vous vivez aujourd'hui, toujours en Suisse, mais dimanche, on écoute.
C'est
extrait de la chorale de l'abbé Pierre Caëlin, c'est bien ça ?
Caëlin, oui, exactement.
Vous êtes très attaché à la culture helvétique, me dit Manque.
Non, pas plus que ça. C'est juste les chants.
C'est juste les chants.
Moi, je suis que pour l'émotion, donc.
D'accord.
Le nationalisme, j'ai pas ça.
Autre influence, Tame Impala.
Ouais.
Tame Impala, donc groupe de pop psyché australien.
Ouais, clairement.
Bon, là, on se rapproche un peu plus de votre univers.
Ouais. Et ça, c'était une grosse référence. Ouais. Quand ils ont sorti Currents, je sais plus en quelle année. Enfin, c'était vraiment une gifle phénoménale. Ils sont arrivés avec des nouvelles sonorités, un nouveau traitement. Enfin, c'est une très grande référence.
Muddy Monk est avec nous ce soir sur France Inter dans un monde nouveau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On termine avec la prescription livre du soir. On demande tous les soirs à notre invité de choisir un ouvrage qui a changé le réel à l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre. Qu'avez-vous choisi, Muddy Monk ?
J'ai choisi un livre de Robert Walser qui s'appelle Les enfants Tanner, qui est un livre qui parle d'une quête d'un jeune homme qui cherche sa place dans la société, dans la vie, et qui fait écho aux discussions que vous avez eues en début d'émission, je pense. Et c'est un livre assez fort, et je le conseille.
Merci beaucoup, Les enfants Tanner, donc de Robert Walser. Merci, Mandy Monk. Un monde nouveau, c'est terminé, et c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, et les indispensables Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. On se retrouve demain avec Laetitia Vito et la chanteuse Emma Peters. Après le journal de 19h, vous retrouvez Le Téléphone Sonne avec Éric Delvaux ce soir, une rentrée politique en ordre dispersé.